pourrions considérer ensemble ce soir, chers amis, avec le secours nécessaire du Seigneur et de son Esprit, quelques enseignements de la parole ayant pour objet la croissance, le développement spirituel que le Seigneur désire pour nos âmes. Sujet abondamment traité, fréquemment évoqué dans les Écritures, dont la méditation nous est nécessaire et elle est du plus grand profit pour nos âmes. Nous lisons premièrement quelques versets. Tout d'abord dans le psaume 1er. Psaume 1er. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au siège des moqueurs, mais qui a son plaisir en la loi de l'Éternel et médite dans sa loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui rend son fruit en sa saison, et dont la feuille ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait prospère. Il n'en est pas ainsi des méchants, mais ils sont comme la balle que le vent chasse. C'est pourquoi les méchants ne subsistent point dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Dans le psaume 92, un court passage, le verset 12. Le juste poussera comme le palmier, il croîtra comme le cèdre dans le Liban. Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Ils porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse. Ils seront pleins de serve et verdoyants. S'il s'agit de la croissance des rachetés des croyants dans ces passages auxquels on pourrait en ajouter beaucoup d'autres, nous lisons deux versets ayant pour objet la croissance ou deux passages concernant la croissance, le développement des méchants. Psaume 37. Psaume 37. Le verset 35. J'ai vu le méchant puissant et s'étendant comme un arbre vert, croissant dans son lieu natal. Mais il passa, et voici, il n'était plus, et je l'ai cherché, et il ne s'est plus trouvé. Psaume 73, verset 3. J'ai porté envie aux arrogants en voyant la prospérité des méchants, car il n'y a pas de tourment dans leur mort, et leur corps est gras. Ils n'ont point de part aux peines des humains, ils ne sont pas frappés avec les hommes. C'est pourquoi l'orgueil les entoure comme un collier, la violence les couvre comme un vêtement. Les yeux leur sortent de graisse, ils dépassent les imaginations de leur cœur, ils sont railleurs et parlent méchamment d'opprimés, ils parlent avec hauteur. Ils placent leur bouche dans les cieux et leur langue se promène sur la terre. C'est pourquoi son peuple se tourne de ce côté-là et on lui verse l'eau à plein bord. Ils disent, comment Dieu connaîtra-t-il et y aura-t-il de la connaissance chez le Très-Haut? Voici, ceux-ci sont des méchants, ils prospèrent dans le monde, ils augmentent leur richesse. Le désir de la prospérité, le désir de l'accroissement, de s'agrandir, de s'élever, est un souhait lié à la nature, déjà la nature orgueilleuse de l'homme sans Dieu. Que d'efforts soutenus, que de zèle déployée pour s'élever au-dessus de ses semblables. Et nous savons bien que trois domaines sont particulièrement recherchés par l'homme naturel, l'homme sans Dieu, la fortune, le pouvoir et la gloire. mais nous connaissons l'aboutissement de ces trois buts que poursuit l'homme orgueilleux par nature, l'homme sans Dieu. Il prospère dans le monde. Les versets que nous avons lus dans ces tomes 37 et 73 sont là pour l'attester, et Asaph, qui a constaté la prospérité des méchants, en a été lui-même irrité. Ce fut un travail pénible pour lui de constater la prospérité des méchants. Mais lorsqu'il a compris leur fin, étant entré dans les sanctuaires de Dieu, il a alors réalisé son égarement en leur portant envie. Ils croissent, mais où ? Dans leur lieu natal. Dans leur condition initiale, dans leur condition adamique, ils croissent dans tout ce qui va prendre fin, ils croissent dans tout ce qui est vanité, ils croissent dans tout ce qui sera appelé en jugement. Mais ce n'est pas de cette croissance que nous désirons nous occuper ce soir, mais nous devons bien réaliser que c'est un désir propre à l'homme naturel, s'élever. Du reste, il occupe le cœur de l'enfant déjà. Quel est l'enfant qui n'a pas dit un jour « quand je serai grand » On désire grandir, on désire prospérer. Mais il est une autre croissance. Celle dont nous ont parlé ces quelques versets du premier psaume, comme aussi ce seul verset du psaume 92, ou alors il s'agit de la croissance des rachetés, la croissance de ceux qui appartiennent à Dieu, de ceux qui sont au Seigneur, de ceux qui puisent des ressources qui sont profitables et dans lesquelles et par lesquelles ils peuvent prospérer. Ils doivent prospérer. Mais cette prospérité qui conduira le racheté du Seigneur à fixer sur le parfait modèle ne le conduira pas à l'orgueil, à s'élever pour dominer, mais le rendra désireux de prospérer dans les choses éternelles, dans les choses qui sont d'un prix inaltérable, et prospérer surtout dans la connaissance de celui auquel il est vitalement et éternellement lié. Dans la parole, nous avons fréquemment la mention des enfants. Et souvent, ils sont présentés comme étant des exemples positifs à imiter. Par leur crédulité, par leur confiance, par leur désir de s'instruire, par leur obéissance, souhaitons-le, par leur attachement, des qualités infantiles qui sont une fraîcheur lorsqu'elles sont constatées. Mais nous sommes appelés, si nous sommes des enfants de Dieu, par la grâce de Dieu, parce que nous avons reçu le Seigneur, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné ce droit d'être enfants de Dieu. Nous avons été engendrés de Dieu, par conséquent, nous avons la nature divine, dit Pierre, à laquelle par grâce nous participons. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons à nous développer. Et l'état d'enfance, si précieux, si frais qu'il soit, il l'est dans la mesure où l'on en sort. Quels sont les parents qui, aimant leurs enfants, qui devraient constater l'absence de développement de leurs enfants, ne seraient pas très préoccupés s'ils réalisaient qu'il n'y a pas de développement? Ils arrivent à 2, 3 ou 5 ans, alors, en constatant que leur faculté, leur développement, leur accroissement ne se produit pas. Quelle attitude! Ne serait-on pas préoccupé au plus haut point, et d'une manière fort légitime, en recherchant les plus grands spécialistes pour trouver quelles en sont les causes pour que ce développement se manifeste. Si réel et si à sa place que cela soit, combien le désir d'une croissance spirituelle devrait-il être l'objet des cœurs des parents? Dans quelle mesure les parents croyants ont à cœur le développement spirituel de leurs enfants, une croissance spirituelle, et non pas seulement une croissance physique et intellectuelle, mais spirituelle. La mère de Samuel est là pour nous enseigner à cet égard combien elle a parlé à son enfant, elle l'a formé, on peut dire, pour qu'il habite dans la maison de l'Éternel. L'état d'enfance est un état précieux. mais la parole nous montre que il l'est dans la mesure où, le jour venant, on en sort pour devenir un adolescent, pour devenir un adulte, pour devenir un homme fait, et tout cela a son sens spirituellement. S'il y a des exemples que la parole nous donne relatifs aux enfants, et des exemples positifs, il y en a d'autres qui sont alors tout à fait négatifs. Lorsque les écrivains des livres du Nouveau Testament démontrent qu'il n'y a pas chez les croyants ce développement spirituel qui devrait s'y se trouver. Nous connaissons ce que peut dire l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adressant à ces croyants juifs ayant embrassé le christianisme, ayant reçu les vérités chrétiennes, et auxquels il peut dire qu'il ne peut pas poursuivre le développement qu'il aurait à cœur de continuer concernant Melchisédek. Pourquoi cela? Parce qu'ils sont devenus paresseux, ils sont des enfants, ils ne se sont pas développés. Et à cause de la paresse de ces Hébreux, nous sommes nous-mêmes privés de l'enseignement qui n'a pas pu être donné. Et si nous pensons à ces Hébreux, il n'y avait que quelques années qu'ils avaient reçu le christianisme après avoir quitté le judaïsme. Et ces reproches sévères de l'écrivain de l'Épître, auxquels il leur dit qu'ils sont devenus paresseux. Ils sont restés des enfants. L'apôtre pourra écrire quelque chose de semblable en s'adressant aux Corinthiens, lorsqu'il peut leur dire dans sa première épître, « Je ne peux pas vous donner de la viande à manger, vous ne pouvez pas supporter une alimentation spirituelle solide, il faut que je vous donne des rudiments même, parce que vous êtes charnels, dit-il, parce que vous êtes restés des enfants. » Quel reproche qui a dû sans doute atteindre profondément la conscience de ces Corinthiens, puisqu'ils ont été sensibles à cette première lettre, si sévère et néanmoins si pleine de grâce et d'amour. Car n'oublions pas, dans la répréhension, il doit toujours y avoir, et il y a toujours cet équilibre divin entre la sévérité et la fermeté d'une part, et la grâce et l'amour d'autre part. L'apôtre Pierre, parlant des enfants, peut nous dire que nous avons à désirer avec ardeur le pur lait spirituel. Nous connaissons bien le passage que nous pouvons lire au chapitre 2 et au verset 1er, « Rejetant donc toute malice et toute fraude et hypocrisie et l'envie et toute médisance, désirez ardemment comme des enfants nouveau-nés le pur lait intellectuel, afin que vous croissiez par lui à salut. » On peut être un enfant nouveau-né, quel que soit notre âge, concernant la foi et le salut. L'âme qui vient au Seigneur, qu'elle ait 15, 50 ou 80 ans, dès l'instant où elle est, elle passe par la nouvelle naissance et elle devient un enfant nouveau-né. Mais combien l'apôtre Pierre insiste, s'adressant à des âmes chrétiennes, à des jeunes croyants dans la foi, jeunes dans la foi, comme des enfants nouveau-nés, les incitant à désirer avec ardeur, ardemment, le pur lait intellectuel. Pourquoi? Afin que vous croissiez, afin que vous développiez. Donc, s'il y a la mention d'enfants qui comporte des enseignements positifs, il y en a d'autres qui sont des avertissements sérieux auxquels nous nous devons de porter attention. Quels sont les moyens par lesquels le croyant va prospérer? Ce sont des moyens en dehors de ce monde, ce sont des ressources en dehors de lui-même, c'est bien sûr ce que la grâce de Dieu nous dispense et maintient à notre disposition. Des ressources toujours suffisantes, toujours accessibles, mais toujours nécessaires. Nous avons sa parole, ce pur lait intellectuel. Nous avons besoin d'être nourris de la parole de Dieu. Et ne pensons pas que nous allons nous développer et faire des progrès spirituels en nous satisfaisant de passer quelques minutes par jour pour la lecture peut-être superficielle et hâtive d'un chapitre. Se nourrir de Christ, c'est autre chose que cela. Et nous pouvons dire que dans une maison chrétienne, dans un foyer appartenant au Seigneur, la parole devrait être toujours ouverte, toujours prête à être lue. Et les moments que nous avons à saisir pour nous enquérir de lui, selon le désir qui nourrissait le cœur du psalmiste David au psaume 27, qui désirait avec ardeur de s'enquérir diligemment de lui dans le sanctuaire de Dieu, il l'a contemplé dans le sanctuaire, dans l'intimité de la communion. C'est un désir qui doit être maintenu en éveil. C'est un exercice, ce n'est pas un don. Car la piété, c'est-à-dire la culture de nos relations vitales avec le Seigneur, ce n'est jamais un don. Il n'est jamais dit dans la parole que quelqu'un a reçu le don de la piété. Pas plus que le don de l'adorateur, ni le don de la prière. La piété est un exercice. Exerce-toi toi-même à la piété. Personne ne peut s'exercer à la piété pour quelqu'un d'autre. Il peut l'encourager, il peut lui être en aide. Mais c'est un exercice permanent, un exercice quotidien, un exercice personnel. Exerce-toi toi-même à la piété. Il y a la parole. Nous avons les ressources de son esprit. Les deux choses vont toujours ensemble, sa parole et son esprit. Et il est nécessaire d'y accompagner, bien sûr, la prière, demandant au Seigneur qu'il forme en nous, qu'il crée en nous ce désir de progresser spirituellement. Non pas pour nous en enorgueillir, car comme croyants, nous ne sommes pas à l'abri de l'orgueil, et l'orgueil religieux n'est pas le moindre. Mais si nous désirons croître spirituellement dans la contemplation de celui qui est la mesure de la croissance, et sur qui nous avons à fixer les regards de nos cœurs, nous verrons celui qui était débonnaire et humble de cœur. Dans quelle mesure profitons-nous aujourd'hui des ressources que nous ont laissées aussi nos prédécesseurs? Le ministère écrit. Nous sommes appelés, nous l'avons vu dans ce passage de la première épître de Pierre, nous sommes appelés à croître à salut. Croître à salut. Pour cela, il faut deux choses. Il faut avoir réalisé que le Seigneur est bon, que nous en avons besoin et qu'en lui, nous n'avons que des choses excellentes à découvrir. Et puis, il faut cette énergie pour rejeter, décliner ce qui pourrait être un obstacle à un tel exercice. Rejetons, nous dit l'apôtre, tout ce qui est le produit de la chair. D'une part, rejeter ce qui constitue des entraves, ce peut être des loisirs, ce peut être des choses même légitimes, mais auxquelles nous donnons peut-être une place qui dépasse celle qui lui revient, pour accorder au Seigneur celle qui lui revient, c'est-à-dire la première. Rejeter d'une part, et goûter d'autre part que le Seigneur est. Alors se produira cette croissance. C'est la part de celui qui est planté près des eaux, ces eaux qui sont la parole elle-même. Combien de fois dans l'Écriture la parole est présentée comme étant ou sous la figure de l'eau, mais il sera alors comme ce juste dont nous parle le psaume 92, qui pousse comme le palmier. Le palmier, où se trouve-t-il? Dans un endroit extrêmement sec, un endroit stérile quant à lui-même. C'est ce monde, il est dans le désert. Mais où plonge-t-il ses racines? Dans la nappe d'eau. Extérieurement, pour celui qui passe à côté du palmier, il ne voit pas l'eau. Il ne voit pas où ce palmier prend son accroissement. Il faut creuser pour le voir. Mais ce qu'il constate, tout passant le constate, c'est le développement de cet arbre qui, sans aucun détour, il n'y a pas de tronc plus droit que celui d'un palmier, s'épanouit dans les sphères élevées. Quelle beauté, quelle majesté dans le feuillage d'un palmier où nous voyons au terme d'un tronc élancé, sans détour, ce développement dans les sphères élevées, mais il a plongé ses racines dans les eaux. Il est, ce juste, semblable à un arbre planté près des eaux du psaume 1er ou de Jérémie 17, et dont le feuillage, c'est-à-dire le témoignage, ne se flétrit pas, et tout ce qu'il fait prospère. Témoignage dans un lieu désertique qu'est ce monde, pour qui le voit. Mais ces sources sont des sources cachées. Elles sont dans la profondeur, elles sont aussi dans les sommets. Mais il sera aussi, il croîtra aussi comme le cèdre qui est dans le Liban, un cèdre qui est bien différent d'un palmier, mais le cèdre qui frappe chacun qui le regarde à cause de la majesté d'une telle plante, par l'ampleur de sa ramure et la beauté d'un tel arbre. C'est le témoignage, c'est le rayonnement autour de lui. Mais cet arbre encore doit plonger profondément ses racines dans les eaux, dans le fleuve de la grâce pour ce qui concerne le racheté du Seigneur. Et nous devons nous poser la question devant le Seigneur avec droiture de cœur. Où plongeons-nous nos racines? Dans quel terrain? Chacun connaît la parabole du semeur de Matthieu 13. Mais quelle est la nature du terrain dans lequel nous nous installons et dans lequel nous plongeons nos racines? Il est facile, peut-être pas, de discerner la nature du terrain, mais la nature néanmoins sera rendue manifeste par le développement et la croissance spirituelle que démontrera un racheté du Seigneur. Il y a donc différents moyens. Nous avons le Seigneur. Les Philippiens, par exemple, dans les 4 chapitres de l'Épître qui leur est adressée, ont leur regard fixé sur le Seigneur. Dans le premier chapitre, comme étant celui qui est la vie. Dans le second chapitre, celui qui est le modèle à suivre, sur lequel nous avons à fixer nos yeux. Dans le troisième chapitre, celui qui est le but de notre marche. Et dans le quatrième chapitre, celui qui est la joie de nos cœurs. Si nous trouvons vraiment dans le Seigneur ce que les Philippiens devaient trouver, objet de la lettre qui leur est adressée, si nous trouvons en lui la source de la vie, le modèle à suivre, le but à poursuivre, et la joie qui alimente et sanctifie nos cœurs, il y aura progrès spirituel. Il y a donc de nombreux domaines. Nous ne pourrons pas, en quelques minutes qui nous restent, évoquer les domaines de croissance. Nous parlons du développement spirituel du croyant. Et nous devons nous poser la question, ou plus exactement, chacun pourra le constater, mais nous devons nous interroger devant le Seigneur. Est-ce que par sa grâce, nous avons fait quelques progrès dans la jouissance, la connaissance de sa personne par rapport à l'an passé? Avons-nous fait un pas plus avant dans l'attachement de nos cœurs et la compréhension de ses pensées par rapport à hier? C'est dans la mesure où il occupera dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos affections, la première place, que nous lui réserverons nos meilleurs moments. Il faut de l'énergie. Cela implique des choix, cela implique des ruptures peut-être. Cela implique peut-être des choses auxquelles il faut renoncer. Et nous nous posons la question, sommes-nous disposés, chers amis, à renoncer à quelque chose qui pourrait être une privation de notre développement spirituel, nous entraver? Sommes-nous à y renoncer pour le Seigneur? C'est là que notre amour pour lui va se mesurer. C'est là le thermomètre de nos affections pour le Seigneur. La vie est faite de choix. Les choix sont permanents. Ne pensons pas qu'il n'y a que le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction que nous trouvons dans Deutéronome. C'est le choix fondamental entre la vie et la mort. Mais une fois qu'on a choisi la vie, une fois qu'on appartient au Seigneur, les choix sont-ils terminés? Certainement pas. Ils vont abonder tous les jours. Et pour chaque choix, il faudra le secours du Seigneur. Pour chaque choix, il faudra la clairvoyance, le discernement spirituel et son secours pour être préservé de faire un choix de Lot, pour être préservé de faire un choix d'Abdias, pour faire le choix d'un Démas et tant d'autres encore. Mais qui nous donne de faire ces choix judicieux. Le choix d'un Abraham qui est resté sur la montagne, le choix d'une Ruth qui n'a pas été attirée par la prospérité matérielle, car il n'y avait rien qui brillait devant elle dans le chemin dans lequel elle s'est engagée, mais elle a choisi. Le choix d'un Moïse qui a commencé par refuser, c'est Hébreux 11. Par la foi, Moïse a refusé. Qu'est-ce qu'il a refusé? Les honneurs de ce monde et le confort de la cour. En échange de quoi? Il a échangé cela contre l'opprobre du Christ. Pourquoi cela? Parce qu'il l'a estimé un plus grand trésor que les richesses de ce monde. Voilà un homme qui a fait un choix. Et nous en connaissons les conséquences. Nous en connaissons la probation divine, la bénédiction divine. Et nous en connaissons l'aboutissement. C'est un homme qui sera à côté du Seigneur à la montagne de la Transfiguration. C'est celui qui parlait avec son Dieu et son Dieu parlait avec lui comme un homme parle avec son ami. Quelle conséquence d'un choix judicieux. Il y a des amarres qu'il faut couper et nous pensons à la jeunesse tout particulièrement. Il y a des choses dans ce monde qui nous attirent. Il y a des choses même légitimes dans lesquelles on dira peut-être il n'y a pas de mal. Posons-nous plutôt la question, y a-t-il du bien? Y a-t-il du profit à ces choses? Réserver au Seigneur la première place, c'est celle qui lui revient. Il ne nous demande pas toute la place pour le moment. Le jour viendra où il aura toute la place. Aujourd'hui, il nous demande la première. Sommes-nous disposés à la lui laisser? Croître à salut, avons-nous lu dans cet épître de Pierre. Ce n'est pas seulement croître dans la jouissance du fait que nous sommes sauvés, c'est une chose de la plus haute valeur, mais c'est croître dans toutes les bénédictions qui nous sont apportées par un si grand salut. Toutes les bénédictions spirituelles. Et de quelles bénédictions sommes-nous comblés? L'Épître aux Éphésiens est là pour l'attester. De toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Il n'y a aucune bénédiction de laquelle nous puissions être privés déjà maintenant dans le Seigneur. Croître à salut. Croître dans la jouissance. Croître dans la compréhension de la valeur de l'œuvre accomplie et de la personne qui a été cette seule sainte victime pour accomplir et acquérir une rédemption éternelle. Croître à salut dans tout ce que le salut nous a apporté. Mais il y a d'autres domaines dans lesquels nous avons à prospérer. Dans la deuxième épître de Pierre aussi, au chapitre 3 et au verset 18, nous lisons les deux derniers versets de cette deuxième épître. Vous donc, bien-aimés, sachant ces choses à l'avance, prenez garde, de peur qu'étant entraînés par l'erreur des perverses, vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, et maintenant, et jusqu'au jour d'éternité. Et nous ajoutons des passages bien connus de Colossiens. Colossiens 1. Au verset 9 de Colossiens 1. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons ouï parler, nous ne cessons pas de prier et de demander pour vous que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre, et croissant par la connaissance de Dieu, étant fortifié en toute force, selon la puissance de sa gloire, pour toute patience et constance. Croître dans la fermeté de la grâce et dans la connaissance. croître dans la grâce? N'est-ce pas croître dans l'appréciation et la jouissance de ce qu'est véritablement cette grâce de Dieu dans laquelle nous sommes, dit l'Écriture. C'est la vraie grâce de Dieu, cette grâce qui nous a apporté le salut, cette grâce qui nous enseigne, nous dit l'Épitratique, cette grâce qui nous porte jour après jour, cette grâce qui nous supporte, mais cette même grâce qui bientôt va nous emporter. Croître dans la grâce de Dieu. Fortifie-toi dans la grâce, pouvait dire Paul en s'adressant à son enfant Timothée. Certes, il faut croître dans la connaissance, mais être fortifié dans la grâce. Et cette grâce, qui n'est pas de la faiblesse face aux positions à prendre lorsqu'il s'agit des droits du Seigneur, mais cette grâce qui agit avec cet amour selon Dieu. On fait parfois quelque erreur lorsqu'on évoque l'amour. L'amour n'est pas faible. L'amour n'est pas chancelant devant les saints droits du Seigneur, devant ce que requiert sa Seigneurie. L'amour conduira un frère à dire à un frère ou une sœur, ce que tu fais, c'est mal. C'est le vrai amour. Mais la façon de le dire, de s'adresser à une âme, ce sera la grâce. C'est par la grâce que le cœur est brisé. Croître dans la grâce, cette vraie grâce de Dieu, cette grâce dont Paul avait un sentiment, une perception et une jouissance toute particulière. Il nous suffit de lire le 15 de la première épître aux Corinthiens. La grâce envers lui, cette grâce qui a agi par lui, cette grâce qui est intervenue pour lui, et cette grâce dont nous avons besoin et sur laquelle nous savons pouvoir compter jusqu'au dernier pas de notre pèlerinage, elle nous est indispensable. Et dans la mesure où nous serons conscients, nourris de la grâce de laquelle nous sommes les objets, il nous sera accordé la grâce d'en manifester quelques effets. Mais croître aussi dans la connaissance, nous venons de le lire. Dans ce passage de l'Épître aux Colossiens, nous avons deux connaissances distinctes. D'une part, nous avons la connaissance de sa volonté, et d'autre part, le verset suivant, la connaissance de Dieu. Pourquoi donc la connaissance de sa volonté est-elle nécessaire pour marcher? C'est un vœu ardent de l'apôtre s'adressant à ses chers Colossiens, demandant avec instance et en prière qu'il soit rempli, c'est une pleine mesure, de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher. Connaître pour marcher. Combien facilement nous pensons aujourd'hui pouvoir marcher sans connaître, être actif sans apprendre à faire. Mais remarquons l'ordre qui est à respecter, connaître pour marcher. Avant de s'engager dans un chemin, il faut s'enquérir de la pensée du Seigneur. Il faut rechercher dans sa parole si ce chemin est selon sa pensée, s'il pourra y apposer le sceau de sa bénédiction, parce qu'il l'approuve. Il ne suffit pas d'être actif. Il compte avant tout d'être obéissant. Connaître pour marcher. Vous soyez rempli de la connaissance de sa volonté pour marcher. Et de quelle manière? D'une manière digne ou à l'honneur du Seigneur. Nous connaissons bien les quatre expressions en rapport avec cette dignité, digne de l'appel, digne de l'évangile, digne de Dieu, et ici digne du Seigneur. Ceci en rapport avec les caractères des quatre épîtres où ces expressions se trouvent. Mais lorsqu'il s'agit de se développer, remarquons, lorsqu'il s'agit de croître, d'acquérir une maturité spirituelle, nous devons être remplis alors de la connaissance d'une personne, de la connaissance de Dieu, croissant par la connaissance de Dieu. Connaissance de la volonté pour marcher, pour être obéissant, connaissance de la personne pour se développer et pour croître. Comment connaîtrons-nous cette personne, si ce n'est par la parole de laquelle le Seigneur pouvait dire « Sondez les Écritures » car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et de quelles Écritures le Seigneur parlait-il? Il ne parlait pas des Épîtres, pas davantage des Évangiles qui n'étaient pas écrits, il parlait de l'Ancien Testament, ce qui met un sceau sur le fait que toute l'Écriture, inspirée, comme dit Paul à Timothée, utile pour instruire, enseigner et convaincre, Toute Écriture nous parle de Christ. Et comme quelqu'un l'a dit, si nous avons lu une page de la parole de Dieu sans y trouver Christ, c'est que nous l'avons mal lu. Il y a d'autres domaines où nous devons nous hâter. Croître dans la possession de l'héritage. La possession de l'héritage. Nous savons bien que lorsque le peuple d'Israël est arrivé sur la rive du Jourdain, des enseignements ont été donnés à ce peuple par le grand législateur qui ne pouvait pas franchir ce seuil et entrer dans le pays. Nous en connaissons les raisons. Mais dans ce livre du souvenir qu'est le cinquième du Pentateuque, le Deutéronome, que d'instructions pour croître et prendre possession de l'héritage. Nous lisons le passage en Deutéronome, chapitre 1er déjà. Verset 8, Deutéronome 1, 8. « Regarde, j'ai mis le pays devant vous, entrez et possédez le pays que l'Éternel a juré à vos pères, à Abraham et à Isaac et à Jacob de leur donner et à leurs semences après eux. » Quel est le pays dans lequel nous entrons? C'est un héritage, non pas terrestre. L'apôtre Pierre, à l'ouverture de sa première épître, nous parle de la nature de notre héritage, un héritage spirituel, un héritage qui est conservé pour nous dans les cieux et pour lequel nous sommes gardés par sa propre puissance, par la foi. Voilà notre héritage. Nous n'avons rien dans cette terre. Nous quitterons ce lieu, cette terre, sans rien emporter. Notre héritage et notre bourgeoisie ne sont pas d'ici-bas, mais nous avons un héritage combien plus précieux que celui d'Israël. Un héritage incorruptible, un héritage immarcessible, qui est assuré, qui nous est assuré dans les cieux, conservé pour vous dans les cieux. Et quant à nous, nous sommes gardés jusqu'à la définitive et parfaite jouissance de cet héritage. Mais nous avons à entrer dans la jouissance déjà présentement, puisque nous sommes introduits par la foi, et en raison de notre position en Christ, nous sommes introduits dans les lieux célestes, et nous pouvons, avec le secours de sa grâce et de son esprit, nous mouvoir dans cet héritage qui doit être l'objet de nos pensées et que nous avons à cultiver et à entrer dans la jouissance d'un tel héritage. Il y a des ennemis. Canaan, on l'a dit souvent, c'est une figure du ciel. Il est préférable de dire que le Canaan est une figure de l'héritage dans lequel nous entrons présentement, alors que nous sommes encore sur la terre, car en Canaan, il fallait combattre pour en prendre, pied après pied, possession. Grâce à Dieu, nous n'irons pas dans le ciel pour combattre, les luttes auront pris fin. Mais sur la terre, nous avons des ennemis. Satan ne pourra jamais nous enlever la vie éternelle, il ne pourra pas nous ravir de la main du Seigneur, il ne pourra pas nous priver des bénédictions finales au jour de sa venue, mais il peut nous priver de la jouissance actuelle. Il peut nous dépouiller de la fidélité. Il peut nous priver d'un caractère visible de témoin dans ce monde. Et il a tous les moyens, les plus subtils, les plus abondants, les plus variés, pour occuper les pensées des croyants, pour détourner nos affections et les nourrir d'autres choses. Nous n'irons peut-être pas dans le monde, mais nous mettrons le monde chez nous. Prenons garde, chers amis. Entrons dans le vrai héritage, immarcessible, incorruptible. Nous avons à en prendre possession, il faut combattre car il faut de l'énergie. Il faut le désirer, il faut le vouloir. Mais quel est le critère déterminant pour entrer dans la possession de quelque chose? C'est l'appréciation qu'on en a. C'est la valeur qu'a la chose pour nos cœurs. Et ne sommes-nous pas des fois frappés dans notre vie quotidienne ou notre existence ici-bas, lorsqu'on désire ardemment quelque chose, sur le plan de la vie quotidienne, on trouve toujours le moyen et le temps pour le faire, et on déploie une énergie qui est au-dessus des fois de notre propre capacité pour se la procurer. On y parvient. Pourquoi? Parce qu'on y tient. Parce que cette chose a de la valeur. Que ce soit le cas pour les vraies valeurs. Les valeurs inaltérables. Mais il faut lutter. Il y a des choix à faire, nous l'avons lu. Il y a des renoncements, mais qui auront une riche compensation. la privation d'une chose peut-être futile et sans profit sera remplacée par une jouissance combien plus grande, ne serait-ce que le sentiment de l'approbation du Seigneur, mais la jouissance de ce qu'il nous accorde. Nous avons le Saint-Esprit, les arts de notre héritage, et nous avons à les cultiver et à entrer dans la possession de ces choses. Et pour cela, nous l'avons déjà mentionné, nous disposons d'un ministère écrit qui nous aide, qui nous a été laissé par des devanciers qui n'ont pas eu d'autre objet que la gloire du Seigneur et la bénédiction des âmes. Et cette nourriture qui a été donnée par des instruments formés par le Seigneur en son temps n'est pas donnée deux fois. Et le temps du réveil ne va pas se répéter. Ces choses qui ont été données, comment les mépriserions-nous? Comment les sous-estimerions-nous? Ce n'est pas la parole, bien sûr. Ce ne sont pas des écrits inspirés. Néanmoins, ce sont des aides. Et le Seigneur a qualifié des serviteurs pour nous donner, par leur canal, par leurs moyens et leurs plumes, un ministère écrit de la plus haute valeur et qui nous est en une aide précieuse pour comprendre ces choses merveilleuses de Dieu. Que le Seigneur nous donne de les apprécier. Croître dans la connaissance, croître dans la grâce, croître dans notre salut et croître dans l'héritage. Mais nous avons aussi à croître dans la fidélité et dans le témoignage. Nous pensons à Moïse en Hébreux 11 qui a été cité. Cette clairvoyance quant à la valeur des choses, comme c'est du reste le cas quant à l'héritage. Un Caleb et un Josué ont apprécié l'héritage. Ils n'ont pas été au nombre de ceux qui sont tombés dans le désert. Et cette appréciation de l'héritage, Caleb a su le transmettre dans sa famille, comme en démontre sa fille, qui a demandé des portions de terre arrosées des sources du haut et des sources du bas. Combien cela a été précieux au cœur de Dieu. Apprécier l'héritage de nous. Et un désir de fidélité. Moïse est là pour nous le montrer, et combien d'autres avec lui. Paul en est un exemple remarquable. D'une volonté arrêtée. Ce fut le cas de Daniel, jadis. Un désir de fidélité qui ne doit pas être soumis et ébranlé par les circonstances extérieures. Cela est difficile. Mais voilà un homme qui avait arrêté dans son cœur de ne pas se souiller par les mets délicats du roi. Un Esdras également avait disposé son cœur à rechercher la loi de l'Éternel, à la faire, à l'enseigner. Notons l'ordre et n'allons pas l'inverser. Premièrement, rechercher, s'instruire. Deuxièmement, pratiquer ce qu'on a reçu et compris. Et en troisième lieu seulement, enseigner. Il avait disposé son cœur à ces trois choses-là. Une croissance, une progression spirituelle dans ce domaine-là de la fidélité et du témoignage rendu à Dieu, du témoignage rendu au Seigneur. C'est pour cela que nous sommes laissés sur la terre, pour être des témoins. Vous serez mes témoins, dit le Seigneur. Et chacun peut méditer les divers caractères qui se rattachent à un témoin et qui se rattachent à un témoignage. Mais si nous lisons tous les caractères, que ce soit la fidélité, l'amour, l'attachement, la séparation du mal, la sainteté et tant d'autres choses, nous pourrions dire, mais qui est suffisant pour ces choses? Alors nous avons la réponse du Seigneur. Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. Les ressources ne sont pas en nous. Mais le Seigneur ne nous demande jamais ce que nous ne pouvons pas faire. Ce qu'il nous demande, c'est ce qui est en notre pouvoir. Et combien il a apprécié ce que Marie a fait, ce qui était en son pouvoir, elle l'a fait. Il nous demande de faire ce que, avec le secours de sa grâce, avec les ressources de son amour, nous pouvons accomplir pour sa gloire et pour notre bénédiction. Développement, qui sera le résultat et la démonstration d'affection toujours plus étroite pour le Seigneur, développement dans la fidélité et dans un témoignage rendu à sa gloire. Il y a aussi la progression dans le fruit porté. Dans le fruit porté, nous connaissons bien soit la parabole du semeur déjà évoquée, où celui qui est semé dans la bonne terre va produire du fruit en abondance, l'un 30, l'autre 60 et l'autre 100. Nous connaissons aussi le sujet développé par le Seigneur en Jean 15 concernant la vigne. Quelle est la condition pour porter du fruit? C'est de demeurer dans le cep. Il n'y a pas de rupture. Il faut que la sève passe entre celui qui en est la source, celui qui la reçoit et qui est appelé à porter du fruit. Mais il y aura parfois le sécateur du maître. Il y a la taille. Et chaque serviteur, chaque croyant individuellement, quelle que soit la nature du fruit qu'il va porter pour le Seigneur, sera l'objet de l'école du Seigneur. Et il y aura peut-être des heures douloureuses. Il y a des heures où la discipline, ne pensons pas toujours que le mot de discipline a un sens de réprimande ou de conséquences fâcheuses, de fautes commises. Le mot de discipline, c'est la formation. C'est par une discipline qu'on est formé à quelque chose. Et discipline, la formation d'un disciple du Seigneur, c'est l'école de Dieu. Elle peut comporter des tailles qui sont douloureuses, comme c'est pour la vigne. Mais alors, elle portera du fruit. Et que veut le Seigneur? C'est qu'elle porte, que vous portiez plus de fruits. Progression dans le fruit porté. Un autre domaine aussi dans lequel il y a progression, c'est dans le service. Le service pour le Seigneur. Nous savons bien que le champ est particulièrement vaste. Il peut y avoir un service caché, un service ignoré même de la plupart. Mais combien précieux au cœur du Seigneur. Ne pensons pas que ce sont les services les plus visibles, les plus en évidence, qui seront les plus récompensés au jour des rétributions du tribunal de Christ. Mais un service humble et fidèle, quelle qu'en soit la nature, un service effacé, combien précieux au cœur du Seigneur, et qui sera accompli avec humilité et avec persévérance. Il n'y a rien de plus facile que de commencer quelque chose. Mais si nous avons vu que nous devions être remplis de la connaissance de sa volonté avant de s'engager dans un chemin, avant de commencer un service, si l'on a à cœur, n'oublions pas qu'il convient de bien le peser devant le Seigneur pour savoir tout premièrement si on y est appelé, et pour mesurer à la lumière de la parole et dans la dépendance du Seigneur si ce service va pouvoir se poursuivre sans poser de problème. On peut tout commencer, mais il importe de pouvoir le poursuivre d'une manière qui glorifie le Seigneur. Progression dans le service, nous dirons peut-être aussi dans l'assemblée. Nous sommes là et nous recevons beaucoup dans le rassemblement, dans la présence du Seigneur. Ces saintes convocations sont une riche bénédiction, et combien nous éprouvons de pertes, même si nous n'en avons peut-être pas conscience, comme ce fut jadis le cas de Thomas, lorsque nous ne sommes pas là au moment de ces saintes convocations. Mais ne pensons pas seulement à ce que l'on vient chercher, soyons préoccupés, exercés devant le Seigneur quant à ce qui nous accorde d'apporter. Qu'apportons-nous dans le rassemblement? Premièrement, nous y apportons l'état de nos cœurs. Et l'état du cœur, le niveau spirituel de l'assemblée, sera le résultat et correspondant au niveau de l'état des cœurs de chacun de nous. Si nous nous développons, s'il y a croissance spirituelle, nous aurons à l'heure de culte quelque chose à dire. À l'instar du psalmiste au psaume 45, qui peut dire « Mon cœur bouillonne d'une bonne parole. Je dis ce que j'ai contemplé dans la personne du bien-aimé. Tu es plus beau que les fils des hommes. » Il peut dire ce qu'il a composé au sujet du roi. Mais pourquoi? Parce qu'il l'a contemplé. Est-ce que nos cœurs bouillonnent à l'heure de la louange? Ils n'ont plus qu'à s'ouvrir pour exprimer dans la reconnaissance et l'adoration ce que la grâce divine nous aura accordé de découvrir dans la contemplation de sa personne, de celui qui est plus beau que les fils des hommes, celui qui est incomparable. Alors nous ne paraîtrons pas à vide. Nous savons que le peuple d'Israël était sérieusement mis en garde. Vous ne paraîtrez pas à vide devant ma face. C'est Deutéronome 16. Nous n'avons pas le droit de venir à vide dans la présence du Seigneur. Et c'est dans la mesure où nous nous serons nourris de lui, où nous nous serons abreuvés au fleuve de ses délices, et où nous aurons déjà, par anticipation, réalisé quelque chose de cette déclaration du psalmiste, que dans sa face est un rassasiement de joie et qu'il y a des plaisirs à sa droite pour toujours, c'est dans cette mesure qu'ayant contemplé de sa personne, nous aurons quelque chose à exprimer. Non seulement rendre grâce pour ce qui a été fait pour nous, mais surtout présenter à Dieu la personne du Seigneur. Vous raconterez à mon Père toute ma gloire, c'était le message de Joseph à ses frères. Nous sommes là, ayant été amenés des ténèbres à cette merveilleuse lumière, pour annoncer les vertus de celui qui nous a amenés jusque-là. Ce n'est pas le culte du nous, c'est le culte de Christ. C'est la présentation à Dieu en tournoyant au jour ou au lendemain du sabbat la gerbe des prémices. C'est présenter à Dieu l'excellence de celui en qui il trouve toutes ses délices. Mais pour cela, il faut l'avoir contemplé. Progression dans le service d'un frère, d'une sœur, car ne pensons pas que le service est réservé aux frères seulement. Si le ministère public est la part des frères, tout croyant dans le corps a une fonction. Qu'il soit un homme ou une femme, il a une fonction dans le corps, à sa place. L'erreur souvent, c'est de sortir de sa place. Il y a deux dangers, c'est de ne pas accomplir sa fonction, ou le second, de faire autre chose que ce qui nous est demandé. Mais dans le corps, nous sommes placés les uns et les autres comme membres du corps de Christ, en vue de l'utilité pour la progression, pour la santé et la prospérité de cet organisme divin qu'est le corps de Christ. Ce n'est pas une organisation, c'est un organisme, le corps de Christ duquel il est la tête glorifiée dans le ciel. Et la dépendance qui doit nous caractériser nous conduira à rechercher qu'est-ce que le Seigneur me demande et à discerner la nature et la mesure de la fonction que dans sa grâce il daigne me confier. Progression dans le service, en vue de la prospérité d'ensemble, en vue de la gloire et de l'honneur de celui qui s'est acquis ce peuple, ce corps de Christ. Nous comprenons qu'un frère, dans la progression du service, commencera peut-être à la réunion de prière. C'est bien là un début normal d'un jeune frère de s'exprimer à la réunion de prière. Mais pour cela encore, il faut être occupé des choses de Dieu. Il faut discerner des besoins. Il faut être soi-même animé dans son cœur de besoins spirituels. Il faut connaître et non seulement être présent, mais vivre la vie d'assemblée. Car il y a trois étapes. On peut venir à l'assemblée, c'est une grâce. On peut comprendre l'assemblée, c'est indispensable. Mais nous sommes appelés à plus que cela, vivre l'assemblée. Et dans la mesure où l'assemblée occupe nos cœurs, l'apôtre est là pour attester dans quelle mesure c'était sa part. Il était assiégé tous les jours d'une égale sollicitude pour toutes les assemblées. Et c'est en raison de cela que, connaissant les conditions et les besoins, il pouvait écrire sous la dictée de l'Esprit, bien sûr. Et c'est dans la mesure où nous vivrons la vie d'assemblée que nous pourrons présenter des requêtes, des besoins, avec des actions de grâce. La louange. Pourquoi tant de bouches fermées à l'heure de culte? Avons-nous contemplé la personne du Seigneur ou n'avons-nous rien vu en lui qui soit désirable? Nous n'avons rien à dire, nous n'avons rien à présenter à Dieu. Il n'est jamais parlé d'un don quant à l'adoration. Le culte et la réunion de prière ne requièrent aucun don. Ce qui parle, c'est l'amour. C'est l'amour pour Christ, l'amour pour son assemblée, l'amour pour les âmes. Et à l'adoration, combien il est souhaitable que les bouches s'ouvrent dans cette liberté de l'esprit pour exprimer quelque chose de cette personne à la gloire de celui qui nous l'a donné. Alors, quelle fraîcheur! Développement dans le service qui pourra conduire à la présentation de la parole et non pas nécessairement de longues méditations qui dépassent l'heure peut-être, mais les saintes paroles. Les saintes paroles qui conduisent à l'enrichissement, à la bénédiction, à l'édification, qui rafraîchissent les âmes. Nous citons pour encourager cette scène où cet enfant qui n'était porteur que de 5 pains et 2 poissons pensait absolument inutile de les apporter. Pour nourrir une foule pareille, à quoi bon? Mais quelle est la réponse du Seigneur? Apportez-les-moi ici. Les 5 pains et les 2 poissons apportés aux pieds du Seigneur, c'était le devoir de ce jeune homme. Le Seigneur, selon son pouvoir, pouvait les multiplier et rassasier les foules. Il en est même resté de reste. Saintes paroles qui conduisent à l'enrichissement. D'Éphésiens 4, verset 15 et de 2 Corinthiens 3, verset 18, entre autres, la mesure, c'est Christ. Croître jusqu'à lui, jusqu'à la plénitude de Dieu, la plénitude divine. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Nous réalisons bien que nous n'atteindrons pas cette mesure présentement. Il y a trop d'entraves en nous-mêmes. Néanmoins, que le Seigneur nous accorde le désir de croître et de tendre vers cette mesure qui n'est rien d'autre que Christ. L'apôtre pouvait dire, pour moi vivre, c'est Christ. Quelle mesure? C'est celle que la grâce divine propose à nos cœurs et place devant nous. Nous arrivons sans doute au terme de notre pèlerinage et de l'économie de la grâce. Nous attendons le Seigneur et nous pouvons, par l'état de ce monde, discerner que l'horizon de notre foi se colore déjà des rayons de l'étoile brillante du matin. Il nous reste peut-être peu de temps que le Seigneur nous rende désireux et qu'il nous donne, nous devons le lui demander, cette énergie, l'énergie de l'amour, pour le servir, pour se développer et atteindre cet état d'homme fait, non pas rester des enfants. Il n'est pas normal qu'un croyant passe des décennies comme racheté du Seigneur, même dans le rassemblement, et arrive après des années au même état spirituel qu'au début. Nous sommes appelés à atteindre cet état, cette maturité, cet état d'homme fait. Bientôt, il n'y aura plus de progrès à faire. Lorsque nous serons introduits dans la présence du Seigneur, notre position trouvera une réalisation pratique, totale et glorieuse. Nous savons bien présentement que quant à notre position, il n'y a pas de progrès à faire. Nous sommes rendus agréables dans le bien-aimé, nous sommes parfaits, irrépréhensibles, sans crise devant Dieu. Ce n'est pas quant à la position que nous avons à progresser, c'est quant à notre état pratique. Mais lorsque nous serons rendus conformes à son image, semblables au Seigneur, délivrés de nos enveloppes et de tout ce qui en nous constitue des entraves, des obstacles à ce développement, alors, il n'y aura plus de progrès à faire, nous serons comme lui. C'est la mesure qui sera alors atteinte pour sa gloire. Ce sera le résultat glorieux de son œuvre accomplie au jour où il se présentera les siens, mais au jour où il se présentera aussi son assemblée glorieuse, n'ayant ni tâche, ni ride, ni rien de semblable, pour la joie de son propre cœur. Là alors, semblables à lui, nous pourrons lui adresser ce culte, cette adoration, cette reconnaissance et cette louange qui lui sont dues. Et en attendant ce jour qui nous donne de le faire déjà de nos cœurs, en reflétant dans ce monde quelque chose de lui, selon ce qu'il nous demande d'être la lettre de Christ, la bonne odeur de Christ.